Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
The National Security Agency, with the help of Israeli experts, may have taken out nearly 1,000 of Iran's 5,000 centrifuges with a sophisticated cyber program.
Des histoires étranges de l'ère numérique. Avec la montée en flèche du piratage informatique, les conflits internationaux prennent une toute autre dimension.
Lancé en 2010, le virus Stuxnet a saboté des milliers de centrifugeuses dans une centrale nucléaire en Iran.
Il est maintenant possible de détruire des infrastructures et paralyser des ressources naturelles sans même lancer un seul missile.
Suivez-nous dans cet épisode palpitant et voyez comment la toute première cyberarme a changé l'histoire et l'avenir de la sécurité informatique.
Comment vas-tu, Sébastien Lévesque?
Ça va bien, et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien, déjà notre 40e épisode.
Oh, c'est fou, hein?
Ah, on n'aurait jamais pensé à ça, honnêtement.
Non. Ah non, jamais, 40.
Là. Au départ, on se disait que nous, Seb et Émile, on allait faire un podcast pour peut-être une quarantaine de personnes intéressées par des sujets obscurs, mais là, un an plus tard, un an et des poussières plus tard, déjà 40 épisodes.
Ouais, c'est assez.
Sans compter les bonus.
Oui, exact. C'est assez fou, hein. Je suis fier de nous aussi, faut le dire. On a travaillé fort pour ça, puis la réception est bonne. Donc, toutes les distordus sont là pour nous écouter. Donc.
Merci à vous de votre support constant. 40e bière aussi qu'on
oui,
boit
c'est vrai,
aujourd'hui,
effectivement.
Seb. Ouais. Déjà 40 bières. Et aujourd'hui, pour célébrer cette 40e épisode, là, on n'a pas rien. Là, on a quelque chose assez spécial. On a un arrivage de la microbrasserie Cap Gaspé, située à Gaspé. Ça, c'est rare que ça se rend jusqu'à Montréal, là, cette bière-là, à part parfois dans des take-overs, dans des événements spéciaux,
ouais,
dans des brasseries. On boit la Alderman Beach, qui est une Northeast IPA. Vous savez qu'on aime bien ça. Donc, qui est une bière blonde forte, là, à 5,8% d'alcool. Et vraiment, là, c'est une bière de plage. Elle,
oui.
elle est créée en l'honneur de cette magnifique plage là, qu'on retrouve dans la région de Gaspé, et elle nous est offerte par Audrey-Anne de la microbrasserie Cap Gaspé, donc qui nous envoie ça.
Merci.
Apparemment qu'ils écoutent Distorsion là, dans la brasserie en train de faire leur recette, donc shout out à vous, et aussi on vous envoie plein d'amour parce qu'on sait que la microbrasserie a perdu beaucoup de litres de bière là, en raison des problèmes d'eau potable qu'il y a à Gaspé. Donc si cet été là, vous allez prendre des vacances dans ce coin-là, assurez-vous d'aller boire beaucoup de bière à la microbrasserie pour les encourager
dommagé là, pour ces pertes là, qui sont énormément tristes. Et si vous voulez encourager Distorsion, encourager le show, vous pouvez le faire en nous offrant une tournée de bière sur le site web de Distorsion au distorsionpodcast.com. Vous allez sur l'onglet tournée de bière et vous pouvez nous faire un don et nous suggérer une bière de votre région et ça va nous faire plaisir de la boire. On a aussi un review 5 étoiles sur Apple Podcast, Seb.
Oui, et ça nous vient de Ced470. Il nous dit « Captivant, excellent podcast. Je ne peux m'empêcher d'écouter tous les épisodes en rafale. Contenu extrêmement intéressant et recherché. Merci. »
Merci à toi.
Oh yeah.
Le sujet de ce soir, mon Seb, c'est assez palpitant. C'est une suggestion d'un de nos amis, oui. Fabrice, shout-out à toi, tiens, qui nous demande depuis plusieurs mois de faire un épisode là-dessus.
Sans dire gosser.
Et en fait, on le savait, ça fait longtemps qu'on veut faire un épisode là-dessus sur Stuxnet, sur ce fameux virus, ou est-ce que c'est vraiment un virus? Bonne question. Mm. C'est plus une cyberattaque qui a eu lieu au début là, des années 2010, en Iran, auprès de centrifugeuses. Donc, Stuxnet, c'est un peu l'incarnation de la guerre informatique qu'on connaît maintenant. L'origine de cette attaque-là, elle pointe en direction de certains pays, de certains États, évidemment, mais elle est toujours un peu floue, parce qu'il y a très peu de règles autour de cette cyberguerre.
Exactement, oui.
C'est un peu ça, Stuxnet. Hein? C'est une attaque informatique qui a eu des effets dans la vie réelle, donc qui a causé des problèmes au programme nucléaire iranien. Bon, c'est peut-être pas une mauvaise chose. On en discutera un peu plus tard dans l'épisode. Mais c'est aussi toute cette nouvelle cyberguerre qui se dessine à l'horizon. Vous allez voir, on a fait beaucoup de recherches sur comment ce virus-là a opéré et à quel point il peut être néfaste là, advenant des conflits internationaux.
Dans le cas d'aujourd'hui, je me suis vraiment senti comme dans un film d'espionnage. Même, c'était un peu la première fois que j'avais le goût de travailler pour le gouvernement américain, là, tu sais, pour créer...
Pour la NSA.
Oui, la NSA, c'est ça, créer un genre d'entité pour combattre le mal. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et vous allez voir, le cas d'aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup aussi passionné, c'est encore une fois le mélange politique et technologique, un peu à la Pizzagate, là, si on veut.
Oui.
Moi, c'est ce qui m'a vraiment passionné de A à Z de ce cas-là. Là, on pouvait aller vraiment très, très profond dans le technique, dans l'analyse du virus et de son fonctionnement, puis autant dans toutes les magouilles gouvernementales.
C'est aussi un sujet qui est très d'actualité là, en lien avec l'Internet des objets.
Oui.
Tu sais, Seb, maintenant ton frigo est connecté sur Internet et tout ça, donc ça ouvre des portes à des infections de virus et ça ouvre des portes à du piratage. Toi, est-ce que ça t'inquiète, tout ça?
Je suis un peu partagé, en fait, parce que moi, je suis un grand utilisateur des objets connectés comme les assistants vocaux, des choses comme ça. Puis en même temps, il y a tous les gens qui travaillent en cybersécurité qui disent que c'est un peu le mal. C'est comme si on installait des micros dans nos maisons, qu'on pouvait se faire espionner. C'est certain qu'il y a un risque. En fait, c'est sûr qu'il y a un risque, mais j'essaie de pas trop tomber dans cette paranoïa-là,
malgré tout. On peut facilement devenir paranoïaque.
Oui. Puis il y a eu des exemples là, encore... De certains assistants vocaux qui enregistraient puis il y a eu des preuves là, tu sais, comme celui d'Amazon encore la semaine dernière là. Donc c'est il y a un élément important, mais j'ai l'impression qu'en même temps ces compagnies là vont quand même essayer de tout faire pour pas que ça arrive non plus, puis d'essayer de protéger là, au maximum au niveau de la sécurité l'Internet des objets. Mais oui, il y a même un épisode de Black Mirror justement où que la domotique elle est très très bien implantée dans la maison, elle contrôle à peu près tout là, et que justement il se fait pirater et tu deviens un peu esclave ou coincé là, si t'es victime de ce genre d'attaque-là.
Parce que c'est un peu ça, Stuxnet. Hein? C'est l'incarnation à grande échelle de l'Internet des objets. Mm-hmm. C'est-à-dire, comment tu peux, avec un virus qui se propage sur le net, réussir à faire briser des centrifugeuses au centre d'une station nucléaire. Donc, ça soulève plein de questionnements là-dessus. Vous allez voir, on va tout vous expliquer ça. Les pirates ont franchi ce qu'on appelle un air gap, donc une zone qui n'est pas connectée. Mm-hmm. C'est assez impressionnant comment ils ont réussi à atteindre les machines. Mais ça relève tout ce débat autour de l'Internet des choses. Et moi, ça m'a juste rendu encore plus paranoïaque. Déjà, en animant Distorsion, on a au fil du temps, on commence à choisir ceux en qui on fait confiance.
Oui.
Et lorsqu'on creuse des histoires comme ça, ça nous inquiète un peu. Seb, est-ce que tu es prêt à te plonger dans les confins informatiques de Stuxnet?
Oui, monsieur.
Haute vitesse. En janvier 2010, les enquêteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique venaient de terminer une inspection à l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, au centre de l'Iran, lorsqu'ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la salle des cascades où des milliers de centrifugeuses enrichissaient l'uranium. Chaque fois que les travailleurs de l'usine mettaient hors service des centrifugeuses endommagées ou inutilisables, ils devaient les soumettre à l'inspection de l'agence pour vérifier qu'aucune matière radioactive n'était introduite clandestinement dans les dispositifs avant qu'on les retire. Les techniciens le faisaient maintenant depuis plus d'un mois, ce qui était assez inhabituel. Normalement, l'Iran remplace jusqu'à 10% de ses centrifugeuses par année en raison de défauts matériels et d'autres problèmes, mais pas aussi souvent que ça. Avec environ 8700 centrifugeuses installées à Natanz à l'époque, il aurait été normal d'en démanteler environ 800 ou 900 au cours de l'année. Cependant, quand l'Agence internationale de l'énergie atomique a examiné plus tard les vidéos des caméras de surveillance installées à l'extérieur des salles de cascade pour surveiller le programme d'enrichissement de l'Iran, elles ont été stupéfaites en comptabilisant leurs observations. Les ouvriers avaient remplacé les unités beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Selon leur estimation, c'était entre 1000 et 2000 centrifugeuses qui ont été échangées sur une période de quelques mois. C'est 3 à 6 fois plus que d'habitude. L'Iran n'était pas tenu de divulguer la raison du remplacement des centrifugeuses officiellement et les inspecteurs n'avaient pas le droit de demander la raison. Leur mandat était de surveiller ce qui est arrivé aux matières nucléaires et à l'usine et non de conserver une trace des défaillances de l'équipement. Mais il était clair que quelque chose avait endommagé les centrifugeuses d'une manière très sérieuse. Mais pourquoi tout à coup les centrifugeuses de Natanz se mettaient à briser ou à exploser à ce rythme? Toi, Seb, tu disais que tu as fait des recherches sur les centrifugeuses.
C'est un domaine totalement que j'ignorais, dans le sens que oui, je savais qu'on faisait de l'uranium, ou du moins de l'énergie nucléaire, mais tout le processus, ça m'était complètement... j'ignorais complètement ça. Puis même, je savais pas qu'il y avait une agence qui surveillait vraiment de près.
Oui.
C'est tout de même sérieux, là. Et toutes les interventions sont quand même surveillées, justement, pour éviter que des pays fassent des armes nucléaires. Donc ça...
Absolument.
Ça, c'est l'aspect que je te dirais qui m'a le plus surpris, qu'il y a une vraie entité qui surveille ça, là. Pour éviter des guerres.
Oui, il y a un gros contrôle qui est fait. Et aussi, le développement atomique et nucléaire, ça se fait via des règles très strictes qui doivent être endossées par des traités internationaux. Mm-hmm. Donc, on peut pas, toi et moi, Seb, commencer à faire de la recherche et développement en énergie nucléaire là, dans le studio de distorsion là, aujourd'hui comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement surveillé. Puis là, on se rendait compte qu'il y a véritablement quelque chose d'anormal qui se passe là, dans cette centrale de Natanz en Iran.
On se déplace en Biélorussie, qui s'appelle aussi Belarus.
Oui.
Sergei Yulasen, en fait, qui est chef d'équipe de l'entreprise de conception d'antivirus Virus Block ADA, qui est justement situé en Biélorussie, reçoit des gars du support technique un cas plutôt inhabituel. Un client d'une usine en Iran a signalé des « blue screen of death » sur Windows qui étaient arbitraires et des redémarrages d'ordinateurs réguliers là, sans qu'ils le demandent.
On se rappelle les fameux « blue screen of death ». Ça m'est arrivé encore cette année, là, un fameux écran bleu PC, évidemment, qui nous force à redémarrer là, où vraiment là, rien ne va plus. Là.
Oui, effectivement. Moi, c'est plutôt rare que j'en ai, je te dirais, à part des fois quand un vieux disque dur se met à planter avec un bad sector. Mais je dois avouer que c'est quand même moins courant qu'à l'époque de Windows 95. Ouais. On va leur donner ça. Sergei, qui est une jeune star du milieu des ingénieurs informatiques dans son coin, est diplômé de l'Université technique de Biélorussie avec un bac en développement logiciel. Il était diplômé en 2006. Il a commencé justement sa carrière chez l'entreprise d'antivirus Virus Block ADA, que je dois avouer que je connaissais pas du tout, bien honnêtement. Là, c'est un petit joueur dans tout l'écosystème des entreprises d'antivirus. Justement, il travaille là comme programmeur. Rapidement, il est devenu chef d'équipe. Il a conçu même le moteur antivirus de l'entreprise en 2008. Il a continué à avancer. Il a participé au développement de technologies de sécurité assez évoluées. Il a aidé beaucoup à résoudre des virus assez sophistiqués. Donc, c'est vraiment une bonne tête d'antivirus et d'informatique. Lors de sa première analyse, il avait l'impression que les anomalies trouvées étaient dues à une mauvaise configuration de Windows ou étaient complètement le résultat d'un conflit entre les applications installées. On le sait, là, c'est un phénomène assez courant pour toute personne qui a déjà travaillé avec Windows, là, d'avoir des conflits d'applications. Il a alors demandé aux gens du support technique d'obtenir plus d'informations sur les applications qui étaient installées sur l'ordinateur pour essayer de trouver le problème. Il a été quand même assez stupéfait aussi quand il a vu que plusieurs autres ordinateurs sur le même réseau de l'usine, du client, avec des ordinateurs Windows fraîchement installés, là, donc pas de possibilité d'avoir de conflit d'application, avaient le même comportement que les autres ordis. Là. Il y avait des blue screen of death puis ils se redémarraient tout le temps, tout le temps. C'est à ce moment-là qu'il n'y a eu aucun doute qu'il y a un logiciel malveillant qui est installé. Là. Sinon, il ne peut pas avoir ce comportement-là. Et qui était certainement conçu, en fait, par des experts parce qu'il n'y avait aucun moyen de le détecter. Il a passé à travers tous les filtres de détection d'antivirus. Le seul moyen que dans le fond, qu'il a pu lever un drapeau, c'était l'écran bleu de la mort. Donc, c'était quand même un cas assez particulier. Mm-hmm. Heureusement pour lui, Sergei et son équipe, la personne qui était responsable du dossier chez son client, en fait, qui était un responsable dans l'usine, était un expert en sécurité informatique lui aussi, puis c'était un bon ami à Sergei. Fait qu'ils ont pu facilement s'échanger beaucoup d'informations parce que ce genre de problématique-là, c'est quand même pas évident à déboguer. Il faut beaucoup communiquer pour essayer de trouver le problème. Après plusieurs tentatives pour essayer d'obtenir un accès à distance à l'ordinateur qui est infecté parce qu'il voulait mettre la main sur le fameux virus en tant que tel, ils ont réussi. Dès le départ, ils ont remarqué sa nature qui était assez furtive aussi, puis son chargement en mémoire qui était étrange. Puis il y avait vraiment des techniques d'épandage ou de contamination assez hors du commun. Là, ici, je vous évite toutes le charabia technique là, en dessous de ça. Là, on essaie quand même de rendre ça simple pour le commun des mortels. Le fichier exécutable avait une taille de 500K, était écrit aussi dans...
C'est très petit, ça.
Oui, c'est très, très petit quand même, mais les virus, c'est jamais très, très gros non plus. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un standard, là, je te dirais, au niveau. Et il était même écrit dans différents langages de programmation.
Parce qu'en maintenant, c'est vrai, excuse-moi, je te coupe, Seb, mais faut que ça se transmette légèrement. Faut pas que ça soit une pièce attachée de 2 mègles, ton virus. Là.
Non, effectivement.
Faut que ça puisse parfois le voyager dans les courriels.
Oui, faut que ça soit léger quand même, effectivement. Puis dans ce cas-là, vu que c'est du code machine, c'est moins lourd aussi au niveau de l'exécution en tant que tel. Là. Et justement, vu que le langage de programmation du C et du C++ dans des virus, c'est quand même assez rare, là, parce que c'est des langages quand même assez évolués. Les virus, sans rien enlever aux gens qui conçoivent des virus, généralement, c'est pas si complexe que ça à coder. C'est fait dans d'autres langages de script et tout ça. Donc, il n'y a pas un amalgame de technologies à travers un même virus.
Ils ont aussi remarqué une chose là, tout de même assez particulière. Les pilotes, là, les fameux drivers du virus, les fichiers informatiques, ont été signés avec de véritables certificats numériques d'entreprises respectées telles que Realtek. Un certificat de sécurité sur une application garantit qu'on peut faire confiance à cette même application. Donc, c'est quand même sérieux et ce virus-là avait ça là, en lui. Là. Malgré tout, ils ont décidé d'investiguer.
Oui, parce que pour que Microsoft t'émette un certificat de sécurité, mais il faut qu'il lui-même vérifie l'application. C'est un peu comme quand on soumet une application au Apple Store.
Oui, oui, oui.
Elle passe par le processus pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de virus et qu'elle ne fait pas aucune action qui est contre le gré de l'utilisateur. Donc, c'est un peu la même chose, les certificats qui sont émis pour des applications. C'est toujours Microsoft qui l'émet, en fait, à l'entreprise.
Après plusieurs jours d'analyse et de brainstorm sur le virus et son mode de fonctionnement, Sergei et son équipe concluent qu'il utilisait des vulnérabilités là, qu'on appelle « zero days » qui permettent au virus de pénétrer même les ordinateurs Windows correctement corrigés et avec les dernières mises à jour de sécurité. Et là, on va en apprendre un peu plus sur le monde des « zero days ».
Oui, les zero days, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, souvent, ça, on entend l'expression qui se galvaude un petit peu partout sur les sites de nouvelles informatiques. En fait, c'est des trous de sécurité qui sont dans les systèmes d'exploitation. Ou
des failles.
Des failles, en fait, mais qui sont inconnues du fabricant, là, comme à l'heure actuelle, qui est inconnue de Microsoft. Donc, il n'y a pas de patch de sécurité pour les protéger. Donc, c'est les zero days, c'est ça. Puis c'est très, très peu connu parce que c'est pas nécessairement documenté. Et les petits groupes sélects qu'ils trouvent généralement conservent cette information-là pour des buts malsains, là, justement. Mais généralement, dès que c'est trouvé après ça, là, ça c'est corrigé par l'entreprise, mais c'est ça. C'est toujours les petites failles qui sont pas connues encore puis qui deviennent connues par
la suite. Des portes d'accès, des points qui peuvent être utilisés pour rentrer à l'intérieur d'un logiciel.
Oui, exactement. C'est à ce moment qu'ils ont convenu que le certificat numérique de Microsoft avait été volé. De plus, la complexité du virus et les technologies extrêmement sophistiquées des rootkits les ont amenés à conclure que le malware était une bête redoutable et qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils devaient alors informer les gens de l'industrie de la sécurité. Pour vous expliquer un peu c'est quoi un rootkit, c'est un autre terme du monde des antivirus, c'est une petite application qui s'exécute encore une fois sans qu'on s'en rende compte, mais qui prend possession de ton ordinateur comme si vous étiez l'administrateur. Mm-hmm. Vous savez, quand vous travaillez dans des bureaux, des choses comme ça, si vous n'êtes pas administrateur de votre ordinateur, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dessus. Donc, le rootkit, c'est les virus qui utilisent ça, ben ça leur permet vraiment de faire ce qu'ils veulent. Donc. Par contre, avant d'aller grand public avec le virus, ils ont décidé qu'il vaudrait mieux en parler aux principaux intéressés en fait. Donc, ils ont essayé de rejoindre Microsoft et Realtek pour leur parler du problème et ce qu'ils avaient découvert. Mais étant donné que Virus Blockada, c'est une petite compagnie de sécurité, ils n'ont même pas été pris au sérieux par Microsoft et Realtek. Donc, ils n'ont rien fait de leur demande.
Ils n'ont pas pu signaler le problème.
Non, pas du tout. Donc là, il est un petit peu, quand même, je peux comprendre, découragé de la situation.
Malgré tout, ça n'a pas empêché ce groupe-là d'informaticiens de continuer à enquêter sur le fameux virus.
Exact.
Le 17 juin 2010, suite aux avancements et découvertes sur le malware, ils étaient en mesure de l'ajouter officiellement à leur base de données de virus, là, de la fameuse entreprise de sécurité Virus Blockada. À ce moment, il ne comprenait pas exactement ce qu'il faisait, mais il avait été en mesure de détecter son introduction dans le système et sa propagation, donc d'au moins détecter sa présence. C'est déjà un bon pas. Dès qu'ils ont mis leur base de données à jour, plusieurs détections de ce virus se sont produites partout sur la planète. Chaque jour, de nouvelles usines situées un peu partout étaient infectées, et plus particulièrement en Iran. L'incertitude était très présente, puisque personne ne savait vraiment ce que faisait le virus à ce moment. Les usines savaient seulement qu'elles étaient infectées, mais ignoraient ce qui pouvait leur arriver.
Je disais justement qu'il y avait énormément d'inquiétudes parce que pour eux, c'était comme une bombe à retardement.
Oui, une épée de Damoclès.
Oui, tu sais que ton ordinateur a un virus dans tes usines qui font de l'uranium, mais tu sais pas ce que ça va faire, tu sais pas quand il peut se passer quelque chose. Il y avait aucune idée. Puis à cette époque-là, justement, ce qu'on parlait au début de l'épisode, les centrifugeuses qui brisaient, mais il n'y avait pas fait l'association entre les deux. Là. Il ne pouvait pas le savoir.
C'est à ce moment que Sergey a décidé de demander de l'aide à la communauté de sécurité informatique et, par conséquent, aux autres compagnies. Le 12 juillet 2010, il a publié plusieurs détails du virus sur le site web de l'entreprise, mais aussi sur le populaire forum de discussion du milieu de la sécurité wildersecurity.com. On y apprend entre autres que l'infection se fait via une clé USB. L'article a porté fruit assez rapidement. Quelques experts ont remarqué que ce virus semblait s'attaquer à des contrôles industriels fabriqués par l'entreprise Siemens et que cela pouvait représenter de l'espionnage industriel. Assez inquiétant. Après quelques pressions supplémentaires, même Microsoft Security a commencé à travailler sur l'affaire.
Ouais, parce que ça, au départ, là, encore une fois, je te disais qu'ils boudaient, mais il y a eu d'autres tentatives aussi, au fur et à mesure qu'ils avançaient, et Microsoft voulait pas. Et c'est grâce à un contact de Sergey, qui travaillait chez Heavy Blast, qui est une autre entreprise d'antivirus, mm-hmm. qui a réussi à faire réveiller le département de Microsoft Security, qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est fou quand même. Hein?
Il a travaillé fort.
Oui, vraiment.
Pour que ça se rende public. Par contre, ce dossier prenait toutes les ressources de la petite entreprise, le Virus Blockada, et elle n'arrivait pas à avancer sur ce gros dossier. Le 15 juillet 2010, Siemens met à disposition de ses clients un outil capable de détecter et de supprimer le virus. Heureusement pour eux, parallèlement à leurs efforts, la compagnie de sécurité Symantec, qu'on connaît bien, analyse elle aussi le virus depuis qu'il a été ajouté dans la base de données de virus de Virus Ad Blocker, donc le 17 juin. Donc, ça amène quand même un gros joueur dans l'enquête.
Oui, vraiment, parce que Symantec, 4 milliards le chiffre d'affaires l'an passé, donc c'est une entreprise qui a les reins solides là,
oui.
pour justement supporter ce type d'enquête. L'ingénieur en sécurité Eric Chen de Symantec et son équipe débutent aussi l'analyse en profondeur du code source du virus. Ils partent où ce que l'équipe de Sergey était rendue, donc il n'y avait pas au moins tout le processus de départ à refaire. Dès le départ, eux aussi ont été surpris, pas par la taille du fichier, mais par la taille du code source du virus qui était 20 fois plus gros que la moyenne et son absence aussi d'anomalie. Un peu comme on disait, c'est généralement les virus ou les malwares, c'est toujours fait un peu sur un coin de table. L'objectif, c'est pas la qualité du code et tout ça, c'est vraiment de faire une exécution malsaine et tout ça. Puis il y a toujours des bugs généralement. Mm-hmm. Là. Mais dans ce cas-ci, la qualité du code était vraiment impressionnante, même l'ingénieur Eric, ce qu'il disait, c'est toute la structure à l'interne, comment c'était... il y avait... chaque ligne de code faisait une instruction très, très, très précise. Là. Habituellement, on n'a pas ce niveau de qualité-là. En regroupant certains éléments qui se sont retrouvés dans le code, ils finissent par le baptiser Stuxnet, en fait. Mais ça j'ai su que c'est un peu plus tard, c'est même Microsoft qui l'avait baptisé Stuxnet, parce qu'il y avait deux fichiers dans les drivers qui avaient des noms similaires à ça. C'était genre un Mr. Sticks, puis quelque chose...
Stab ou quelque chose comme
Stop,
ça.
Ouais, Stop, puis l'autre c'était Xnet. Donc, en faisant le jumelage des deux, ils lui ont créé le nom Stuxnet. Donc, c'est vraiment de là que ça vient. Parce qu'au départ, je me demandais tout le temps de qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'est rien de plus banal que ça.
Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on va commencer à nommer ce virus-là, oui. Parce qu'avant, il portait vraiment un nom long.
Oui, c'était Trojan quelque chose.
Exactement, ça. Tandis que là, c'est vraiment là qu'il est baptisé Stuxnet, et c'est pas un nom que les créateurs du virus vont lui donner, c'est vraiment un nom que les experts en sécurité informatique vont lui donner. Donc c'est très différent en interne et au niveau public.
Oui, exact. Après plusieurs semaines, les recherches avancent quand même, mais le virus était vraiment complexe. Tantôt, on vous a parlé des Zero Days. Il y en avait 4 à l'intérieur du virus au total, ce qui arrive pratiquement jamais. Habituellement, Eric, il disait que lui et son équipe, quand ils analysent un virus pour la première fois, ça leur prend seulement entre 5 et 20 minutes pour tout comprendre son fonctionnement. Dans ce cas-ci, ça fait déjà plus d'un mois, ils ne sont toujours pas arrivés à tirer de grandes conclusions. Justement, qui pouvait bien être ce virus et surtout, pourquoi? À quoi ça sert? On n'a toujours pas cette réponse-là.
En continuant d'analyser chaque ligne de code, ils ont remarqué que plusieurs chaînes de caractères étaient en lien avec la technologie SCADA. SCADA, pour résumer, c'est la technologie qui permet de contrôler l'automatisation des robots industriels et des installations techniques comme ce qu'on retrouve dans des usines ou dans des centrales énergétiques. En continuant leur enquête, ils vont découvrir que plusieurs d'entre elles contenaient des appellations comme S7 ou encore Step7 ou WinCC. Ils se sont mis à googler ces expressions-là et ça les a amenés à trouver que, en fait, ces expressions-là étaient liées à des automates contrôlés par un logiciel de la compagnie Siemens du nom de Step7. Donc, les automates, là, c'est vraiment les petits bidules, les mécanismes là, qui partent du signal digital pour en faire une action mécanique.
Exact.
Donc, ces logiciels-là conçus par Siemens étaient des logiciels qui contrôlaient l'ensemble de l'automatisation des machines. C'est à ce moment que l'ingénieur en chef, Eric Chen, leva un drapeau. Ils avaient besoin d'experts en ce genre de technologie. Eric va contacter l'International Security Community, qui est une communauté d'experts dans ce domaine-là, et afin de retrouver des experts en infrastructure critique. Ils ont eu peu de retours. Ce genre d'experts-là se fait assez rare.
Oui, parce que c'est un mélange, en fait, parce qu'il y avait besoin d'experts, de contrôleurs, mais il y avait besoin d'automates, mais dans des contextes de grosses infrastructures, justement, qui sont assez critiques comme des centrales énergétiques.
Les automates sont extrêmement vulnérables aux attaques. Il n'y a pas d'antivirus ou quoi que ce soit qui existe pour protéger ces systèmes. Et ils ne savaient toujours pas quelle machine précisément était ciblée dans ce cas-ci. Là.
Ça a dû changer, ça, par exemple.
Oui, depuis. À chaque fois que Symantec trouvait une nouvelle exploitation du virus, ils mettaient à jour leur base de données et Microsoft corrigeait la faille de sécurité au besoin. Le problème, c'est que les mises à jour dans les entreprises et usines ne se sont pas faites systématiquement, on le sait. Hein. Donc, le malware ou le virus continuait de s'étendre là, comme une traînée de poudre et a été détecté dans plusieurs usines à travers le monde sur les systèmes de contrôle industriel. Autre cas troublant, un scientifique spécialisé en nucléaire a été tué dans une attaque à la bombe dans la même période, ce qui a plutôt aidé à alimenter les rumeurs.
Au même moment que Symantec, le département de la sécurité intérieure des États-Unis, le Homeland Security, eux aussi tentaient de comprendre le fonctionnement du virus. C'était la division, la NCCIC, qui est vraiment la branche numérique, la cyberbranche de la sécurité intérieure qui s'est occupée du dossier. Donc, le gouvernement américain, lui aussi, dans une de ses divisions, tentait d'enquêter sur le virus. Mm-hmm. Vous allez voir, je souris un petit peu dans ma voix, mais c'est que vous allez comprendre un peu pourquoi qu'on va arriver à toutes les hypothèses politiques. Le 30 septembre 2010, en fait, donc à peu près 3 mois plus tard, après la première fois que Symantec ont mis la main sur le virus, Eric et son équipe ont élucidé comment fonctionnait le virus et l'ont documenté et publié de manière officielle. Par contre, la cible exacte du virus leur échappait. Ils ne savaient pas toujours pas quel automate, en fait, qui était particulièrement ciblé. Il savait ce qu'il faisait, il savait que ça envoyait une séquence, que ça envoyait une action sur un automate. Mais un automate, c'est... Il y en a tellement de sortes que
oui.
Il pouvait pas savoir qu'est-ce que ça faisait non plus concrètement. Donc, c'était quand même un autre pas, mais il était encore une fois coincé.
Parce que ça peut être autant, on pense à une usine à bouteilles ou quelque chose comme ça,
oui, oui.
Le petit bras mécanique là, qui saisit la bouteille, ça peut être autant ça qu'une valve qui va remplir la bouteille. Ou,
oui, exact. Une usine de bartende qui coupe les bartendes. C'est toute l'industrie... Et rempli d'automates. Là. Il y en a partout, partout, partout.
Puis c'est très inquiétant de savoir qu'on peut s'attaquer à ça. Là.
Oui,
parce
ben...
que la base de l'industrie alimentaire repose sur beaucoup d'automates, là, d'une certaine façon. Là.
Oui, vraiment. Puis c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'antivirus à l'époque. Parce que, tu sais, il faut avoir une vraie motivation là, de vouloir oui. attaquer une usine. Et je pense que ça a dû quand même sensibiliser un peu toute l'industrie, pas juste nucléaire et au niveau des infrastructures critiques, mais un peu toute l'industrie de l'usine et même tout le monde qui font des contrôleurs et tout ça. Le 4 novembre 2010, il y a un expert en système de contrôle industriel de la Hollande qui contacte Eric via le blog de Symantec. Il se dit volontaire pour les aider à résoudre une des dernières pièces du puzzle, c'est-à-dire identifier quelle machine spécifique est ciblée. Il leur indique que toutes les pièces à l'intérieur d'un contrôleur possèdent un identifiant unique qui permettent justement de déterminer le fabricant et le modèle de la pièce en tant que telle, là, un peu comme un petit code barre là, qui est vraiment unique. Justement, dans leur analyse, Eric et son équipe, ils avaient identifié des numéros, mais ça faisait pas de sens pour eux, puis ils googlaient, puis ils n'arrivaient pas à arriver à une conclusion. Tu sais, quand tu googles 9500H, c'est assez difficile de mettre le doigt sur le bobo. Mais heureusement, grâce à ça, ça les a amenés vers, disons, ils ont pu converger leurs recherches dans un spectre un peu plus petit là, au niveau vraiment des contrôleurs. Ça les a amenés vers des convertisseurs de fréquences qui provenaient de deux manufacturiers en particulier, dont un qui était situé en Iran. Donc, un des fabricants de l'automate était fabriqué en Iran. Déjà là, on vous disait que les usines les plus infectées, la concentration était plus grande en Iran. Avec ces éléments en main, l'équipe d'Eric tenta de simuler en fait ce qui pouvait faire le virus, ce qui pouvait produire. Ils se sont procurés les pièces qui étaient visées, parce que dans le fond, il y avait pu, avec les numéros de série dans le code, ils ont pu savoir quel contrôleur acheter. Ils ont développé une petite application bien, bien simple pour les contrôleurs. C'était de faire gonfler une ballonne, puis qui s'arrêtait de souffler après 5 secondes, donc la ballonne n'éclate pas. Le code, le contrôleur respecte le code source, l'exécution, puis tout fonctionne bien. Ils ont infecté la machine avec Stuxnet. La ballonne a explosé.
Mm-hmm.
Donc, on voit vraiment que ça a dévié les commandes
oui.
habituelles et qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus grave là, qui allait se produire. Là. Cela ne faisait plus de doute. L'objectif du virus était de saboter le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran et d'empêcher le président Mahmoud Ahmadinejad de fabriquer une arme nucléaire. Le virus, là, il avait même eu droit à 3 mises à jour parce qu'il avait été implanté, ils se sont rendus compte qu'il est implanté dans l'usine depuis juin 2009.
Mm-hmm.
Donc, c'est un an avant sa découverte. Puis à l'époque, quand il était installé, il faisait juste écouter, en fait.
Il était en dormance.
Oui, il était en dormance, il agissait pas. Même si la mission exacte du virus a été trouvée, ses auteurs sont toujours pas identifiés, puis même ils ont cherché dans le code ou quoi que ce soit s'il y avait une signature, parce que souvent les créateurs de virus aiment bien laisser leur marque.
Oui.
Mais dans ce cas-ci, rien du tout. Et même pendant quelques années, le sujet est sous enquête et personne est vraiment pointé du doigt ou, disons, accusé de quoi que ce soit.
Oui, très peu de nouvelles informations oui, refont surface exact. Pendant ces deux années-là. Là.
Mais en juin 2012, le New York Times rapporte que c'est le gouvernement américain qui aurait ordonné l'attaque de Stuxnet en Iran et sur l'usine de Natanz, et que cela faisait partie officiellement d'un programme du gouvernement qui s'appelait Opération Jeux Olympiques. Parle-nous-en donc un peu de l'opération Jeux olympiques, Émile.
Dès ses premiers pas au pouvoir, le président Barack Obama a rapidement investi dans les technologies de cyberdéfense. Là, on s'en rappelle, il y avait eu des conférences de presse à l'époque. Par contre, à l'époque, lorsqu'on le questionnait publiquement, il a toujours demeuré flou au niveau des attaques. Son message était vraiment centré sur la défense du peuple américain et jamais il ne mentionne le caractère offensif possible qu'on peut créer là, grâce au système qu'il met en place. Là. Quand même assez étrange, parce qu'on se doutait bien que s'il investit dans la défense, ça se peut qu'il investit dans l'attaque aussi.
C'est sûr.
Puis même avant ça, le président George W. Bush avait aussi investi là, dans la cyberdéfense et potentiellement dans des armes de cyberguerre. Là. Donc, ça remonte pas à hier là, depuis qu'il y a de l'investissement qui est fait de ce côté-là.
C'est début des années 2000 environ qu'il y a eu beaucoup d'investissements de la part des Américains.
Oui, et même Edward Snowden, le fameux dénonciateur, va d'ailleurs révéler plusieurs détails de ce programme là, de cyberdéfense, avec notamment tous les programmes d'écoute électronique, les programmes de surveillance, tout ça. Donc, on est dans un contexte là, géopolitique très, très bouillant là, à ce moment-là. Là. Au même moment, le programme nucléaire de l'Iran inquiète beaucoup. On apprend qu'ils ont acheté des milliers de centrifugeuses afin d'alimenter leurs deux centrales là, situées dans les villes de Fordo et de Natanz. Israël est très inquiet, on connaît les tensions, et par conséquent, ben les Américains aussi qui sont très près d'Israël. Israël proposait à l'époque là, de bombarder Téhéran, là, rien de moins. Une situation très radicale et dangereuse, là, une façon très très peu diplomate là, de régler le conflit. Mais c'est vraiment la manière qu'il proposait là, haut et fort, là, même en conférence ou lors des allocutions. Et c'est alors qu'apparaît l'opération Jeux olympiques. Parce que ben maintenant, il y a des outils à notre disposition qui permettent de faire autre chose que de bombarder une ville. Selon les dénonciateurs et certains journalistes, là, parce que ce qu'on va vous dire là, c'est pas nécessairement sur des réseaux officiels. Là, c'est des gens que la plupart des gens ont refusé là, de révéler leur nom pour témoigner. Là. Ils n'ont pas témoigné à nous, animateurs de distorsion, mais ils ont témoigné à plusieurs grands médias, mais sous le couvert de l'anonymat. Bon, ben, selon ces gens-là, en fait, là, la NSC, là, donc la National Security Agency, là, l'agence américaine, via une de ses branches qui s'appelle la United States Cyber Command, donc c'est vraiment la division offensive là, de la cyberguerre, ces deux agences-là ensemble auraient mis sur pied cette opération Jeux olympiques. Les équipes de la NSC auraient remarqué les interfaces du logiciel utilisé par les Iraniens dans leur usine là, en visionnant une vidéo en ligne sur Internet là, d'une visite de leurs installations.
C'est fou, hein,
donc,
ça?
Ils ont repéré les interfaces sur les écrans d'ordinateur et ils ont dit « OK, c'est le logiciel Siemens qui est utilisé pour contrôler les centrifugeuses. » Ils ont même pu remarquer lesquelles étaient actives, lesquelles ne le sont pas, là, via des vidéos genre publiées sur Facebook ou sur Internet. Là. Quand même assez fou. Ils ont aussi remarqué que les modèles des centrifugeuses sur des photos publiées en ligne, ils ont réussi vraiment à identifier précisément là, ces modèles-là. Et ils ont même réussi à s'en procurer quelques modèles officieusement là, par contrebande. Donc, afin de pas éveiller les soupçons, ils auraient, selon ces dénonciateurs-là, fait l'acquisition là, illégale de centrifugeuses similaires. Ils ont ainsi là, constitué un petit parc de centrifugeuses et ont pu tester leur logiciel. En principe, Stuxnet devait être en dormance quelques semaines pour enregistrer le comportement normal des machines. Lorsque l'attaque était lancée, le logiciel altérait la rotation des éléments dans la centrifugeuse sous différents rythmes pour éventuellement la faire éclater. Donc, la seule comparaison que je peux vous faire, là, imaginez un verre de bière en cylindrique, puis prenez une cuillère de métal, puis tournez-la, puis frappez-la à l'intérieur du verre. À un certain moment, si vous le faites vraiment, vraiment longtemps, à des milliers de tours secondes, ce que vous pouvez pas faire avec votre main, mais à un certain point, ça se peut que le verre éclate.
Exact.
Donc, c'était le principe ici, là, de faire des changements de rotation très, très rapides, très, très brusques, pour faire en sorte que la centrifugeuse se brise. Pendant ce temps, ben, les employés de la centrale nucléaire ne voyaient rien. Là. Eux, là, ils voyaient que le comportement était normal auprès des centrifugeuses, auprès de leur outil de monitoring, parce que sur leurs écrans, eh bien, ils voyaient ce qui avait été enregistré depuis des semaines par Stuxnet. Donc, ils voyaient des anciens chiffres, des anciennes données
des centrifugeuses. Donc, pour eux, ils pensaient que la rotation était normale, mais en fait, ça devait faire tout un bruit dans la
ah
centrale
ouais,
nucléaire.
Ouais. Mais vu que le virus ou l'application Stuxnet pouvait bypasser un peu le processus normal sans passer par le logiciel, c'est comme ça qu'ils réussissaient aussi à tromper, mm-hmm. en fait, parce qu'ils faisaient une attaque, mais le feedback, la rétroaction était comme normale.
Oui, c'est ce qui, ça.
C'est vraiment une arnaque de haut niveau quand même.
Le jour où l'équipe de la NSC a réussi à faire éclater une centrifugeuse dans leur laboratoire, ils ont récupéré les restes et les ont amenés à l'instant sur la table de conférence auprès de leurs supérieurs. C'est à ce moment-là que les plus hautes autorités américaines ont été convaincues de la valeur du virus qu'ils avaient en main. Ils ont donc reçu le OK pour lancer l'attaque auprès de la centrale de Natanz. Ils devaient par contre percer le air gap, là, c'est-à-dire pénétrer le réseau d'ordinateurs de Natanz qui, eux, n'ont pas leurs ordinateurs sur l'Internet.
Ben non.
Donc, c'est ce qu'on appelle un air gap. C'est mm-hmm. une barrière physique, d'une certaine façon, mm-hmm. qui n'est pas accessible via Internet. Donc, leurs machines sont contrôlées par des ordinateurs qui sont sur un réseau interne, mais on peut pas leur accéder via le câble de Vidéotron. Là. Donc, faut trouver une façon de briser ce air gap, ce qu'on appelle. Puis, ils vont trouver une façon très, très ingénieuse de le faire. Ils ont donc infecté les ordinateurs portables et même là, les clés USB de fournisseurs là, qui vont faire de la maintenance sur les lieux, sur le matériel de la centrale. Donc, faut le faire. Ils ont envoyé vraiment Stuxnet ou une dérivation de Stuxnet sur tous ces ordinateurs-là. Ils sont allés à la pêche et ont infesté plein de, oui. de fournisseurs qui, eux, par la suite, devaient se rendre dans l'usine, brancher éventuellement leur ordinateur sur le réseau interne ou brancher une clé USB pour n'importe quelle raison. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont réussi vraiment à briser ce air gap. Oui, vas-y.
C'est pas simple hein, de tout orchestrer ça. Puis je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas des compagnies, même Siemens, sans les accuser, qui sont peut-être en arrière de ça, ou pas volontairement, mais c'est pour infecter les clés USB, il y a un processus quand même. C'est pas si simple que ça. Puis il doit avoir à l'interne de ces entreprises-là quelqu'un qui a fait le pont. Là.
Oui.
Je peux pas croire. Là. Que ça s'est tout fait par une manigance pour essayer de faire installer la clé. Il y a un élément déclencheur à quelque part, là. Donc, il y a pas des coupables, là, mais on voit que l'éthique...
Mais il y a une autre source que j'avais lue mm-hmm. à ce propos. C'est peut-être une des mesures supplémentaires qu'ils ont mis en place pour s'assurer que ce soit bien fait. Apparemment, qu'il y aurait eu un agent double israélien okay. qui se serait infiltré ouais, ouais. sous le couvert d'un fournisseur pour
voilà.
infecter un ordinateur. Donc,
ça ferait du sens.
Il y a deux sources qui stipulent des informations différentes mm-hmm. là-dessus. Là. Mais bref, moi, je serais pas surpris qu'il ait tenté de faire les deux.
Oui, ben oui, pour être certain de réussir.
Exactement.
En fait.
Il semblerait, là, autre détail, qu'il soit possible d'utiliser les fréquences FM ou même les fréquences RF, là, ce qu'on retrouve dans les câbles traditionnels mm-hmm. de télé, là, les vieux câbles oui. télé là, qu'on visse, pour percer des air gaps, justement. Il semblerait qu'on est capable d'aller
oui.
récupérer des données.
Mon Dieu.
Qui, tu sais, c'est pas du tout cuit, là, mm-hmm. en fait, mais il y a certaines données qui sont percevables
ouais,
et
ouais.
même qu'on peut attraper via ces fréquences-là.
Ah, oui.
là. Notamment, apparemment que certaines, par exemple, cartes vidéo dans les ordinateurs
okay.
vont diffuser des fréquences
oui,
FM. Je
oui.
sais pas trop dans
ouais.
quelle composante exactement, mais on est capable d'avoir une certaine porte d'entrée là, ouais. là-dessus. Donc, assez inquiétant. Stuxnet là, va d'ailleurs devenir un des symboles les plus célèbres de cas où un air gap là, a été franchi. Dans ce cas-ci, il va un peu passer à l'histoire.
Avec raison.
Tout ce stratagème a permis de faire de cette attaque un succès car elle a véritablement ralenti le programme nucléaire de l'Iran. On va y revenir un peu plus tard. Aucun membre du gouvernement américain, toutefois, là, n'a jamais confirmé cette attaque, malgré qu'elle crée un immense malaise dans les médias. Par contre, personne ne pouvait se douter que le virus allait devenir public à un certain moment.
Le virus est accidentellement devenu public à l'été 2010 en raison justement d'une erreur de programmation qui lui a permis d'être découvert et d'être récupéré par la compagnie Virus Block ADA et justement Symantec par la suite. Comme on vous disait, là, avec le Blue Screen of Death et les redémarrages de l'ordinateur, c'était pas prévu ça dans le virus en tant que tel. Puis
mm-hmm.
c'est ce qui a mis la puce à l'oreille et qui a déboulé sur tout le reste. Quelques jours après l'évasion au grand public du virus, lors d'une réunion assez tendue dans la Situation Room de la Maison-Blanche, Obama, le vice-président Biden et le directeur de la CIA à l'époque, M. Panetta, ont examiné si leur ambitieuse tentative de ralentir les progrès des efforts nucléaires avait été fatalement compromise, en fait. Obama se questionnait s'il ne faudrait pas tout arrêter, étant donné que ce n'était pas clair jusqu'à quel point que les Iraniens, les cibles de tout ça, connaissaient, eux, l'existence et le but du virus en tant que tel. À ce moment, l'équipe de Symantec n'est qu'à ses débuts de l'analyse du virus. Obama décida de procéder tel que c'était prévu malgré tout. Dans les semaines qui ont suivi, l'usine de Natanz a été touchée par une nouvelle version du verre informatique. Ils réussissaient toujours à le mettre à jour. Hein? Ça aussi, je me demande toujours comment ils faisaient, malgré qu'ils ont, ils ont des accès à une mine, mais vu que c'est pas connecté, il y a un bout qui m'échappe, je te dirais. La dernière de ces séries d'attaques, quelques semaines après la détection de Stuxnet dans le monde, a temporairement détruit près de 1000 des 5000 centrifugeuses de l'Iran. Ça, c'est beaucoup là quand même. Là. C'est plus de 20% là, qu'il utilisait à l'époque là, justement pour purifier l'uranium. Les estimations internes de l'administration Obama indiquent que les nouveaux efforts qui se sont déroulés sur 18 mois, en fait, au lieu de 24 mois qui étaient initialement prévus. Donc, à partir de juin 2010, qui est la découverte du grand public du virus, jusqu'en décembre 2011, qui aurait effectué des attaques.
C'était constant.
Oui, c'est assez fou, là, parce que ça a été...
Sous les yeux du public aussi.
Oui, ben oui, parce que justement, en 2010, durant l'été, puis tout le monde se demandait vraiment ce qui se passait, puis il n'y avait pas de réponse. Puis les Américains ont toujours été pas très loquaces sur le sujet, bien sûr. Après coup, on se demande, en fait, puis les journalistes se demandaient, est-ce que l'opération Olympic Games a été satisfaisante pour l'administration américaine? Différents intervenants ont donné leur avis qui est assez divergent, en fait, sur le succès du programme de sabotage. À l'intérieur du gouvernement, bien sûr, les gens sont satisfaits, mais certains experts qui sont pas dans le gouvernement en tant que tel sont beaucoup plus sceptiques, en fait, parce qu'ils ont remarqué que les niveaux d'enrichissement de l'uranium en Iran, malgré les attaques physiques, ils se rattrapaient toujours dans la production en tant que telle. Fait que ça n'avait pas d'impact concret au bout du compte. Même que ça donnait suffisamment de carburant là, pour fabriquer plus de 5 armes nucléaires. Donc, au bout du compte, même si ça a détruit des choses, on est arrivé à peu près à la même quantité d'uranium produite. Donc, on s'entend, là, ça, c'est des témoignages, encore une fois, comme tu disais, des gens qui ont fait ça sous le couvert de l'anonymat, là, qui ont révélé ces informations-là. Mais quand même, tu sais, fait que c'est là que ça me vient à me douter, parce que dans un sens, je suis pas contre ces interventions-là, parce que l'Iran, c'est pas nécessairement le pays le plus gentil, puis ça fait peur aussi, les armes nucléaires, mais quand on voit que de l'autre côté, au bout du compte, finalement, ça a pas donné grand-chose...
Mais on le verra un peu plus tard, parce que je pense que ça a eu beaucoup de résultats concrets, mais qui n'ont pas été réglés par les armes.
Oui.
C'est-à-dire que Stuxnet a sans doute permis d'accélérer le traité nucléaire qui a eu lieu quelques années plus tard.
Oui.
On va y revenir.
À ce jour, aucun pays n'a jamais revendiqué ou reconnu sa responsabilité officiellement, même si une tonne de témoignages, comme vous venez de voir... prouve que c'est les Américains qui sont impliqués avec Israël dans tout ce processus-là.
Oui, c'est assez phénoménal parce que lorsqu'on voit tous ces gens-là, les hauts placés, là, autant de la NSA, de la CIA, du FBI même, les gens de l'entourage d'Obama ou de George W. Bush, parce que ça fait des années, ça fait une dizaine d'années que ce programme-là est en cours, le programme de cyberdéfense et de cyberattaque, si on veut. Et puis, tout le monde est très évasif. Là. Les gens refusent d'en parler, mais au lieu de... Ils ne nient même pas l'existence. Ils font juste dire « Non, je peux vraiment pas en parler, même si que ce soit vrai ou pas, je peux vraiment pas en parler. » Donc, il y a vraiment là-dessus une loi du silence.
Oui, puis on les voit, ils sourient souvent dans ces interventions-là. On les voit qu'ils sourient du coin de la bouche. Je trouve que leur non-verbal... Parle pour eux malgré tout. Là.
Oui, vraiment. Ça fait un peu le tour, Seb, de la chronologie des événements entourant Stuxnet. Oui. On n'a pas vraiment de nouvelles. Vous allez voir qu'on a quelques nouvelles sur le programme nucléaire là, en général, mais c'est une histoire qui se termine un peu comme ça. Peut-être qu'éventuellement, il y a d'autres dénonciateurs qui vont sortir encore plus d'infos, parce qu'en ce moment, on navigue entre le mythe et la légende. On ne sait pas si c'est les Américains ou les Israéliens ou même une alliance des deux qui aurait créé ce virus-là, parce qu'apparemment que la qualité du code fait penser énormément à ce qui est créé par les agences gouvernementales, dont la NSC aux États-Unis. On se doute qu'on a l'impression que certains autres groupes de hackers n'auraient pas les compétences nécessaires pour créer un tel code. Donc, il y a quand même énormément de superflu, il y a énormément de choses inconnues encore dans cette histoire-là.
Oui, puis ça n'arrête pas là, hein, parce que on vous parle de ce cas-là, mais dans les dernières années, il y a énormément de cyberattaques contre des infrastructures importantes dans les pays. Justement, dernièrement, les Américains accusent la Russie d'une attaque qui a eu lieu dernièrement sur une centrale électrique aux États-Unis qui a mis à terre le power grid, là, comme ils l'appellent, là, la grosse centrale. Ils disent même, les Américains sont convaincus que depuis 2016, même ils précisent depuis mars 2016, ils ont été la cible de toute industrie, de l'énergie, du nucléaire, même des installations commerciales, tout ce qui gère l'eau, l'aviation et même les secteurs manufacturiers. Donc, c'est la Russie sont assez... selon les dires de ces pays-là, sont assez, je ne sais pas si le terme proactif peut être utilisé, mais ils utilisent beaucoup les cyberattaques sur des infrastructures critiques pour attaquer. Même que l'Ukraine a subi un peu le même sort en 2015 de la part de la Russie. Ils ont attaqué une centrale électrique qui a mis, imaginez, là, quand le courant lâche pendant des heures et des heures et des heures, tout ce que ça crée sur un pays comme pression et comme cafouillage, là, je veux dire, pas d'électricité, on est extrêmement dépendant à
ça. C'est la paralysie.
C'est la paralysie totale. Donc ça, ce n'est que quelques exemples, mais ça finira pas. Il va en avoir plein d'autres. Et même le Canada doit en faire lui-même. Je suis convaincu des attaques. C'est sûr qu'il en subit, mais il doit en faire lui-même pour se défendre. Je serais curieux de voir le programme même canadien d'attaque.
Oui, effectivement.
De cyberattaque, parce que je sais qu'il existe. Là. J'ai déjà lu des articles là-dessus. Et ils sont très conscients puis ils engagent justement des hackers de haut niveau pour se protéger et pour... concevoir, pas nécessairement des armes dans un but spécifique, mais du moins être prêt s'il arrive quoi que ce soit là, pour se défendre.
Ça serait peut-être l'occasion d'un épisode bonus de Distorsion.
Effectivement.
Sur le programme de cyberdéfense canadien. Il y a quand même quelques théories du complot et quelques questionnements là, qui sortent de cette histoire. Ouais. Tu nous en as sorti quelques-unes, là, Seb. Tu nous dis que peut-être que Siemens, la compagnie, là, serait responsable.
Ben, en fait, je me pose la question. Puis Siemens, ça vient vraiment de moi, mon questionnement, parce que, je veux dire, toute l'attaque reposait beaucoup sur des contrôleurs, pas les contrôleurs, mais des contrôles industriels de Siemens. Le virus a été installé... quand même sur des ordinateurs qui contrôlaient des installations de Siemens. Est-ce que par la bande, eux auraient eu accès, participé à l'introduction du virus par les clés USB? Je me pose quand même la question. Ils ont quand même été réactifs dans le sens qu'ils ont fait un correctif de sécurité assez rapidement lorsqu'ils ont été mis au courant, mais tout de même. L'autre chose qui est quand même assez fascinant, c'est Microsoft. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube... qui c'était une conférence de Microsoft sur le Stuxnet là, qui dure 1h20, là, si vous voulez, les vrais geeks, là, c'est quand même intéressant. Puis eux, ils mentionnent, c'est public, là, c'est sur YouTube, ils mentionnent qu'ils sont au courant du virus depuis très longtemps et que même qu'ils savaient l'existence, même avant que virus Adblocka le trouve et que même Symantec s'attaque au dossier. Parce qu'on sait, Microsoft sont très, très proches de la NSA depuis toujours, hein, oui. Parce que les systèmes d'exploitation, c'est tellement critique. Et c'est partout dans le monde et c'est une porte intéressante pour la NSA. On vous le disait même pour aller sur le dark web, allez-y jamais à partir de Windows, parce qu'il y a des portes ouvertes à la NSA pour surveiller tout ce que vous faites sur votre ordinateur Windows. Donc moi, j'avais l'impression que Microsoft, quand je vous disais au départ qu'il était pas très, très collaboratif, je trouve ça quand même louche. Je comprends que c'était une petite entreprise qui déclarait le virus, mais mais Symantec s'occupait du dossier. Fait qu'il y a, c'est sûr qu'après coup, il y a cet aspect-là de Microsoft que je trouve qu'ils sont pas blanc non plus. Puis pour connaître ces zero days-là, faut bien connaître le système d'exploitation. C'est vraiment pas n'importe qui peut mettre la main sur ces trous-là, au moins du moins les découvrir. Je suspecte une collaboration qui a toujours été là, entre Microsoft et la NSA là-dessus. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses aussi.
Ben, moi, je dirais que ma théorie principale, on dirait que j'ai tendance vraiment à croire les dénonciateurs.
Oui.
J'ai
oui,
pas
oui,
l'impression d'aller plus loin que ça, mm-hmm, en fait. Moi, je trouve que ça fait énormément de sens que ce soit un logiciel développé par les États-Unis, peut-être mis en place par Israël, par contre,
ça,
peut-être
oui,
exécuté
oui, oui,
sur le terrain par, que... par des membres d'Israël, parce que je sais que eux étaient vraiment inquiets de voir le programme nucléaire iranien là, prendre de l'ampleur comme ça. Donc, il y a vraiment une... c'est très... ça me surprendrait pas. Je serais tellement pas surpris de ce scénario-là. Je trouve que c'est tout à l'image des de ces deux nations-là.
Oui,
là,
vraiment, oui.
Et puis, moi, c'est, je pense que c'est ce que je crois. J'ai l'impression que c'est vraiment un acte gouvernemental. Mm-hmm. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à pencher vers la théorie de la conspiration, généralement. Mais dans ce cas-ci, je trouve que ça fait du sens, vraiment. Là.
Ah oui, c'est certain que c'est le gouvernement, je vois. Il n'y a pas d'autres intérêts. Parce que c'est un peu ce que je disais, c'est que généralement, les hackers qui développent des virus, il y a toujours un objectif monétaire au bout du compte.
Mm-hmm.
Tu sais, d'aller hacker des gens, prendre de l'information personnelle, les revendre, etc. Dans ce contexte-là, il n'y avait pas ça.
Fait
que
non.
C'est qui fait ça? C'est sûr que c'est le gouvernement. Là. Ça peut pas être autre chose. Puis la cible était tellement précise. Les deux, tu sais, c'était deux contrôleurs, tu sais, deux automates très, très précis qui étaient ciblés dans le virus.
Oui.
Là, même si
c'était un moment donné. C'est une précision chirurgicale.
Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, c'est difficile de les écarter complètement malgré tout. Là.
Puis parlons-en un peu de cette cible qu'est l'Iran. Parce que, en fait, si Stuxnet n'a pas empêché de... Évidemment, ça a ralenti le programme nucléaire de l'Iran. Mais ce qui a vraiment aidé à avoir une certaine régulation dans tout ça, c'est vraiment le deal, le traité qui a été mis au point là à quelque part en 2015. À ce moment-là, en fait, en 2015, l'Iran avait environ 20 000 centrifugeuses et justement sous cet acte-là, sous ce traité-là, qui bon, les initiales c'est le JCPOA, qui en fait signifie, je vous sors ça ici à l'instant, le Joint Comprehensive Plan of Action. Donc, il est un peu un traité là, multination entre plusieurs nations pour créer une sorte de régulation là, des programmes nucléaires. Et c'est très ciblé vers l'Iran, évidemment.
J'aime que dans le mot, il y a le mot compréhensible.
Oui, évidemment. Et puis, à partir là, de la date d'exécution, donc qui était janvier 2016, l'Iran était limité à installer là, pas plus de 5060 centrifugeuses à Natanz seulement. Donc, il devait enlever les centrifugeuses des autres centrales nucléaires, dont celle de Fordor, et de garder seulement les plus vieilles et les moins efficaces dans la centrale de Natanz. Donc là, ça, c'est quand même une grosse réduction. Et ça tient pour 15 ans, ce changement-là. On nous dit aussi que l'Iran n'a pas eu le choix de réduire donc sa production là, de 98%. Donc, c'est quand même une grosse réduction dans son programme nucléaire. Et tout ça fait en sorte que, bien évidemment, ils ont réduit énormément le nombre de centrifugeuses installées. Donc, l'Iran, eux, de leur côté, ils se sont toujours dit « Ouais, mais tous les pays ont des programmes nucléaires. Mm-hmm. Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'en avoir un, tu sais? » Mais le fait que ce soit eux a fait en sorte que et qu'il y avait eu des menaces de représailles, ça fait en sorte que ça a inquiété tout le monde. Parce que l'Iran, eux, se sont toujours défendus de leur côté. Ils ont toujours dit cette énergie-là n'est pas faite pour la création d'armes. On en doutait un petit peu, mm-hmm, mais bon, c'était simplement pour de la création énergétique. Et mais là, avec ce deal-là, en fait, ils ne peuvent pas du tout créer d'armes là, avec les quantités qu'ils ont en ce moment-là. Donc, on se rend compte que Stuxnet a peut-être eu, d'une certaine façon, par ricochet, une influence positive, du moins sur ce programme nucléaire-là. Parce qu'à quelque part, il faut arrêter là, de créer des armes nucléaires là, comme ça, puis de se faire des menaces. Ça n'a pas de sens. Là.
Parce que c'est vrai que le nucléaire, c'est une énergie propre et hyper efficace pour faire de l'électricité, entre autres. Mais ce qui bloque un peu le développement, mais ça a d'autres mauvais côtés. Mais c'est pas faux, là. Il y a plein de pays qui l'utilisent pour ça. Mais c'est vrai que quand t'en produis des quantités qui vont au-delà de tes besoins, c'est tout de même assez louche.
Oui, oui, oui.
Donc, cet accord-là a pris énormément de temps à négocier. Ça a été discuté par plusieurs pays, notamment là, dont les États-Unis, Israël, la Russie, la France, la Chine, l'Allemagne, j'en passe, le Royaume-Uni. Et ça coûte très cher d'opération parce que il y a des inspecteurs qui doivent passer là, des heures. On parle, c'est estimé là, à 3000 jours par an dans les, dans le fond, dans les centrales iraniennes afin de vraiment tout analyser. Là, donc, les vidéos de surveillance, les photos qui sont prises, toutes les datas là, des machines, des contrôleurs et tout ça. Donc, c'est du gros travail quand même, là, superviser ce traité-là.
Oui, vraiment. Ben, c'est tout ce qu'on vous disait au début de l'épisode. Là, en fait, les inspecteurs, c'était de cette agence-là. Là.
Exactement. Donc, c'est un programme très coûteux. Et imaginez-vous donc, en mai 2018, là, tout récemment, le président Donald Trump s'est soustrait à l'accord. Donc, l'accord qu'Obama avait négocié pendant des années, il s'en est soustrait. Et ce qui a créé, évidemment, une grande animosité à l'Iran, qui demeure quand même sous l'accord. Donc, l'Iran, ils se sont dit, ben, malgré le fait que les États-Unis s'en vont, ben, nous, on reste quand même, on est à l'aise avec ce contrôle-là. Et ben, évidemment, les États-Unis auront sans doute des pénalités pour ce geste, mais encore une fois, le feu est réanimé là, entre les deux nations.
Mais je comprends pas l'objectif.
Ben, moi, ce que je crois, c'est que Trump veut, lui, accélérer son développement nucléaire. Et étant donné que le traité, c'est pas tout le monde contre l'Iran, c'est tout le monde uni, tu sais, tout le monde s'impose les mêmes régulations, peut-être pas les mêmes, là, je l'ai pas lu en détail, mais il y a un certain contrôle à avoir. Et je pense que Trump ne veut pas du tout, lui, être monitoré par les inspecteurs parce qu'il craint la Corée du Nord et il y a d'autres craintes qui fait en sorte qu'il veut pas être du tout là, sur le radar des inspecteurs de l'énergie nucléaire.
Il fait qu'il fonctionne vraiment en mode défensif. Je trouve que ça envoie un drôle de message.
Ça envoie vraiment un drôle de message parce que c'est un peu deux poids, deux mesures.
Ben oui.
On va créer une loi pour contrôler ce pays-là. Déjà, le premier traité était quand même assez explicite. Là, on veut contrôler l'Iran. Et puis là, ben, tout ce travail de diplomatie est saboté. Ouais. Puis on ranime le feu.
Je comprends vraiment pas l'objectif, sincèrement, parce que même les États-Unis ont pas tant d'ambition que ça. C'est même pas au niveau énergétique, c'est vraiment juste au... De ce que je comprends, c'est vraiment juste au cas pour se protéger s'ils se font attaquer. C'est drôle, hein? C'est comme... Ça revient un peu au principe des armes à feu aux États-Unis, on dirait, hein? Ils sont faire un amalgame un peu douteux, là. On dirait qu'ils veulent pas régler le problème.
Non,
d'une certaine
exactement.
Manière. Soyons armés pour empêcher d'être attaqués. C'est on dirait que la philosophie, si je la résume, on dirait qu'elle est similaire.
On va tous s'asseoir là, sur une pile de bombes atomiques là, avec notre 12 à pompe là, puis attendre que la guerre arrive. Alors, c'est assez phénoménal. Aussi, on soupçonne que Stuxnet serait en fait la genèse d'une plus grande menace en fait qui pèse sur l'Iran, et ce serait un autre virus là, ou une autre opération du nom de Nitroseus. Et bon, en fait, lorsque il y a un documentaire qui a été réalisé là, l'année dernière intitulé Zero Days, où il y a plusieurs dénonciateurs qui font des apparitions et qui témoignent de leur expérience pour travailler pour la NSA ou pour différentes agences. Et puis, il y a quelqu'un qui nous explique ce qu'est Nitroseus, en fait, mais ce serait l'aboutissement de Stuxnet dans une architecture encore plus grande. Donc, c'est un virus qui serait, en fait, le présent dans toutes les infrastructures de l'Iran. Donc, autant dans le traitement de l'eau, l'énergie, les centrales nucléaires, le réseau des transports, le réseau des banques. Donc, en fait, toutes ces infrastructures-là et services auraient été déjà infectés par des virus en dormance en attendant le bon moment pour survenir. Donc, c'est une information qui est effectivement pas confirmée par grand monde, mais qui alimente la machine à rumeurs, encore une fois, et la machine à conspiration autour de tout ça, là. Moi, je serais pas surpris que ça existe.
Je suis convaincu, moi, que ça existe.
On nous dit que, étant donné le traité qui a eu lieu auparavant, eh bien, cette opération-là n'a pas été menée à terme. C'est le but de tout ça. En fait, c'était d'intimider un peu l'Iran pour leur dire « on est capable de contrôler votre production nucléaire si on le veut. Et puis, étant donné le traité, eh bien là, apparemment que cette opération-là n'aurait pas été lancée. Mais là, on se retrouve vraiment dans Watch Dogs ou dans Mr. Robot. Là. C'est la science-fiction qui se ramène à la vie réelle. Donc, assez inquiétant.
Mais je peux les comprendre, hein, de développer puis se protéger de cette manière-là, parce que c'est vrai que d'infecter tout un système complet, tu es sûr de gagner une cyberguerre d'une certaine mesure. Je suis pas sûr qu'ils ont fait toutes ces démarches-là pour attaquer le Canada.
Non.
Ou d'autres pays qui sont. Ou la France. Ou ils ont pas des conflits. Mais l'Iran, c'est vrai qu'ils sont. Pardonnez-moi l'expression, ils sont pas trop stables. Je peux comprendre que le gouvernement américain fasse ces actions-là pour se protéger. Là. Puis sincèrement, je suis pas en désaccord en tant que tel, même si je trouve que c'est de la vraie guerre. Là. Tu détruis des choses, mais de cet aspect-là, je trouve que c'est aussi en termes de défense. Puis je comprends, disons.
Mais moi, mon malaise est vraiment plus au niveau du caractère public de la chose. C'est-à-dire qu'on en parlait en début d'émission, mais justement, quand il y a des attaques dans le monde réel, on le sait, on le revendique, et puis il y a des suites à ça, il y a des règles autour de ça. Et là, vraiment, c'est vraiment la guérilla, c'est la loi de la jungle. On envoie quelque chose, on fait sauter des usines nucléaires, mais c'est pas nous, c'est un secret. Donc, il y a une part de... Je suis pas en désaccord avec le résultat, mais je suis en désaccord avec les moyens pour y arriver, en fait.
Non, effectivement. Ben, comme un peu tout ce que je parlais, les attaques de la Russie, c'est tout démenti de la part de la Russie.
Ouais.
C'est les pays soupçonnent la Russie de les avoir attaqués. Parce que qui a intérêt à faire tomber une centrale électrique? C'est pas n'importe qui, là, non.
Je crois qu'on a fait le tour de la question, Seb. Un sujet passionnant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas traité d'un sujet un peu plus informatique.
Oui.
Donc, on espère que nos auditeurs un peu plus geeks et un peu plus hackers vont aimer. Moi, j'ai adoré me plonger dans ce sujet.
Moi aussi, vraiment. C'était passionnant. Puis, sincèrement, si vous voulez continuer sur YouTube, il y a plein de... Pour les plus geeks, là, il y a des vidéos qui expliquent vraiment en détail. Moi, j'ai lu tous les rapports de Symantec et de Virus Adblocka aussi sur tout le fondement du virus pour les gens techniques. C'est quand même intéressant d'analyser tout
ça.
Donc, juste à le googler, vous allez trouver quand même l'information assez facilement.
Wired ont bien couvert l'histoire. Oui. The New York Times aussi a fait plusieurs articles là-dessus. Donc, ça a été quand même assez bien couvert par les médias mainstream. Là, vous devrez trouver plein d'informations. Et on vous suggère aussi le documentaire Zero Days qui amène quand même un regard, je dirais, un peu plus politique à la chose, mais qui aide à comprendre le contexte là, sociopolitique de l'époque. Si vous voulez poursuivre la discussion, chers auditeurs, vous pouvez le faire sur facebook.com à Distorsion Podcast. Vous allez trouver notre groupe de discussion. Vous nous faites une demande et si vous n'avez pas trop l'air louche, on devrait vous accepter. Sinon, vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram, Twitter et Untapped. Et tous nos bières de la semaine se retrouvent là.
Est-ce qu'on a un mot de la fin, mon cher Émile?
Oh oui. N'oubliez pas de faire vos mises à jour d'antivirus si vous ne voulez pas vous retrouver dans un de nos épisodes.
Oh non.